colloque international ayant pour thème sujet et traduction, présupposant ainsi l'existence d'un sujet laissant sa marque inscrite sur le texte. Le fait d'admettre une telle présence du sujet implique une mise en cause des concepts traditionnels de la théorie et de la pratique de la traduction, ayant trait à la fidélité, au sens et à l'interprétation, et une prise en compte de la visibilité du traducteur, donc de sa subjectivité. L'acte de traduction est considéré comme un acte de communication interculturelle. Traduire, c'est réécrire l'original, non seulement pour faire passer un sens, mais pour refléter une certaine idéologie, introduire de nouveaux concepts, de nouveaux genres, bref, innover. Avec le langage, passent en même temps des normes et des valeurs esthétiques qui sont fonction de rapports entre les langues et les cultures et de l'histoire de ces rapports. En tant que médiateur culturel, le traducteur sent la nécessité de devenir un négociateur de l'entente entre les cultures, puisqu'il possède une vision biculturelle. Le fait de considérer la traduction non seulement comme une opération linguistique, mais comme un outil de transmission des cultures, implique trois choses. Le culturel est traduisible, la relation de la culture avec la langue qui l'a vécue, les spécificités ou certaines particularités culturelles qui posent des difficultés de transfert. Si, comme l'affirme Salah Mejri, le sens est une donnée de base indiscutable en traduction et par là même un élément primordial, il est loin d'être évident, car il dépend d'un faisceau de paramètres qui font de l'interprétation de tout texte une opération d'une extrême complexité. Au point où, dit-il, gérer le déficit devient à son tour une donnée de base en traduction. Ce syndrome de déperdition et de gain, selon Suzanne Basnett, fait partie intégrante du processus de compromis et de compensation qu'implique normalement l'acte de traduire. Dans le cadre du présent travail, nous tenterons de démontrer comment le manque d'empathie avec la culture et la société dont traite le texte source, l'intertextualité, peut aboutir à la perversion du discours de l'autre. Nous verrons aussi comment l'arbitrage du traducteur est ici sollicité pour créer un nouvel espace textuel adapté aux exigences de la langue et de la culture d'arrivée. Nous nous baserons sur les résultats d'une expérience menée conjointement à Paris et au Caire. Le texte qui sert d'illustration de notre hypothèse et que nous avons sélectionné répond à la définition que donne Kuch à la notion de culture dans les sciences sociales, c'est-à-dire des éléments linguistiques qui se réfèrent à des objets, événements et actions liées au mode de vie ou au mode de pensée d'une communauté. Le public concerné, ce sont les étudiants de Master 2 de l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs de Paris, ayant l'arabe comme langue de travail et qui sont arrivés au terme de leur parcours d'études. D'autre part, le public de la section LEA de l'Université française d'Égypte, de 4e année, ayant appris à traduire selon la même méthodologie et qui se distingue premier par le fait que ce public est exclusivement composé d'Égyptiens ayant effectué leurs études en Égypte depuis l'école primaire, alors que le public de l'Égypte comprend aussi bien des Maghrébins que des Proches-Orientaux. Les critères de sélection du texte. Le texte à traduire doit être destiné, donc un texte culturel qui contient des éléments culturels, doit être destiné aux lecteurs appartenant à une autre culture, il doit faire appel à des connaissances de la culture étrangère, il doit présenter une forme d'écriture se basant sur la conviction selon laquelle l'auteur et le lecteur partagent les connaissances culturelles nécessaires à la compréhension du texte. Enfin, il doit se prêter à plusieurs interprétations possibles qui dépendent de la compréhension ou de l'incompréhension des références culturelles. À l'exclusion des deux premiers critères, le texte choisi du journal algérien Al-Wara s'adresse bien à des arabophones, supposés partager la même culture et les mêmes connaissances. Et pourtant, nous verrons comment nos deux publics, à quelques exceptions près, ont adopté la même démarche intellectuelle qu'un public étranger pour comprendre les éléments culturels soulignés dans le texte et effectuer par la suite leur traduction. Tout d'abord, donc, quand on a affaire à des publics aussi différents, quand on se promène un peu dans les pays arabes et qu'on est sollicité pour donner des cours de traduction, et quand on connaît l'attrait de la traduction auprès du public, nous devons homogénéiser un peu notre méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'on traduit en passant d'une langue à une autre? C'est la première question qu'on pose à notre public. De la langue uniquement, c'est-à-dire des mots compris dans des constructions syntaxiques et formant des textes, ou bien réfléchissons-nous plutôt sur un sens à partir de formes contenant des éléments culturels multiples et renvoyant à des réalités extra-linguistiques diverses. Ces questions ont été traitées par les fondatrices de l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs de l'Égypte, qui ont établi depuis plus de 30 ans la théorie interprétative de la traduction. Le principe central sur lequel se fonde cette théorie est la déverbalisation. Selon ce principe, le traducteur ne travaille pas sur les éléments linguistiques qui composent un texte en tant que forme, mais en tant que forme contenant du sens. Si l'on fait cette distinction, c'est que le sens n'est pas entièrement saisi si l'on s'arrête aux simples significations linguistiques. Il faut compléter la compréhension du texte articulé en paragraphes, phrases et mots avec d'autres éléments. Ainsi, le traducteur fait appel à des compléments cognitifs. Ces compléments peuvent être linguistiques ou extra-linguistiques, présents physiquement dans le texte et dans le contexte qui l'entoure matériellement, ou absents sur le plan matériel, mais accessibles à partir de la mémoire longue durée. Après avoir précisé que les compléments cognitifs recouvrent le notionnel et l'émotionnel, Marianne Lederer distingue entre bagage cognitif et contexte cognitif. Le bagage cognitif est composé de l'ensemble des connaissances linguistiques et extra-linguistiques emmagasinées à plus ou moins long terme dans la mémoire. C'est donc tout ce dont dispose le lecteur avant même de lire le texte et de devenir, dans un second temps, lecteur. Ce sont mes connaissances linguistiques en langue française, de manière générale, ainsi que certaines connaissances linguistiques techniques auxquelles fait référence le texte, par exemple sécheresse éthylique. Mais c'est également ce que je sais sur le sujet que traite mon texte. Avant de le lire, ce ne sont que des idées de l'ordre de la culture générale, par exemple, où se trouve la ville de Tizi Ouzou, quelle est sa spécificité géographique, à quoi réfèrent des figures de style telles que les adeptes de Bacchus, la dive Bouteille. Mais à certains passages du texte, ce sont aussi des connaissances relevant des sciences sociales et politiques. Par exemple, à quoi renvoie la date du 15 avril 1999? Quels sont les partis politiques, notamment à tendance islamiste en Algérie? Quelles sont les revendications des islamistes dans ce pays? Et des lectures antérieures sur des sujets connexes. Par exemple, quelle est l'importance de la production de l'alcool dans les pays du monde arabe? Comment est vécue la période des élections présidentielles dans ces pays, etc. Quant au contexte cognitif, il fait référence au savoir constitué à la lecture du texte, qui s'ajoute à celui que contient déjà le bagage cognitif. Alors, première lecture. L'article sur lequel je m'appuie est très court, 122 mots. Cependant, il représente un corpus intéressant pour l'étude de la notion des compléments cognitifs et de leur rôle dans la compréhension. Dans cette partie, nous commencerons par présenter les idées saisies dès la première lecture de l'article, en distinguant donc les éléments linguistiques des éléments extra-linguistiques. Ensuite, on s'arrêtera sur les points qui ont nécessité une seconde lecture ou un travail de recherche parallèle pour une meilleure compréhension. Les idées du texte se présentent soit clairement explicitées et donc directement compréhensibles à partir du seul niveau linguistique, soit elles sont comprises dans des figures de style, soit elles font partie des connaissances extra-linguistiques. Plusieurs lectures ont été nécessaires pour les étudiants pour s'assurer qu'ils avaient bien saisi l'ensemble des idées du texte qui est très compact mais très riche. Ces diverses lectures les ont aidés à s'imprégner du texte et à saisir ce qui, dans la compréhension, relève des trois catégories citées plus haut, langue explicite, figure de style et connaissance extra-linguistique. Une fois qu'on a repéré ces éléments, nous devons par la suite les réexprimer en langue arabe. Donc, je prends sécheresse éthylique, adepte de Bacchus, dit bouteille. La traduction vers l'arabe des diverses allusions à l'alcool est très intéressante. En effet, la poésie arabe, dès la période anti-islamique, nous l'avons vu ce matin, regorge de vers et d'expressions relatives au vin. Amr ibn Kulthoum est le poète qui a le plus traité du vin durant cette période. Plus tard, lors de la période abbasside, Abu Nawas deviendra maître en la matière. Le vin porte plusieurs noms en arabe, donc Al-Kham, Al-Rahir, Al-Rah, Al-Sahbar, Al-Fahwa. Il faut, pour les connaître, avoir une certaine idée des habitudes arabes relatives aux assemblées bachiques, Majlis al-Sharab, ou de la poésie arabe classique. Pour rendre les trois termes faisant référence à l'alcool, les étudiants ont puisé dans cette culture arabe classique. Sécheresse éthylique. Il a semblé inapproprié de traduire littéralement éthylique en référence au composé chimique alcyle. Les étudiants ont opté pour le maintien de la sécheresse que l'on retrouve dans le texte à plusieurs reprises et ils ont réfléchi sur une allusion différente de l'éthyle pour la version en arabe. Avec Al-Rah, ils ont proposé une allusion plus adaptée à la culture arabe et directement accessible au lecteur. Et le titre est devenu Wajafat Akhdar al-Rah. Donc, on a fait allusion à Jafar, à la sécheresse. Pour adeptes de Bacchus, il n'existait pas de dieu du vin dans la culture arabe et les poètes arabes n'en ont pas imaginé. Par ailleurs, même si la mythologie grecque a été traduite en arabe, seule une élite connaît Bacchus. De plus, traduire l'expression adepte de Bacchus par une expression littéraliste semble inadéquat pour les étudiants. Même si l'on est censé s'adresser à un public dont le niveau culturel est plus élevé que la moyenne, il semble que cette périphrase ne passe pas. C'est pourquoi ils ont préféré la rendre en recourant aux références puisées dans la culture arabe, qui pourrait être considérée comme un dieu dans le domaine de la poésie sur le vin, Abu Nawas. Donc, ils ont même, certains ont proposé un néologisme où il serait question des adeptes d'Abu Nawas, ils ont imaginé un Nawasiyoun, plus imagé que Ahl al-Sharab. D'autres ont proposé Sharibouha huna min man yantasibuna ila dini Abi Nawas Sha'ir al-Khamriyat. Donc, ce néologisme, donc, a l'avantage de maintenir l'idée des adeptes tout en se référant à un nom propre plus familier à la culture arabe. Dit bouteille, cette expression rabésienne, personne ne la connaissait. Là aussi, les termes qui se réfèrent à la bouteille de vin sont nombreux dans la poésie arabe et dans les traductions vers l'arabe de la poésie de Omar Khayyam. Les étudiants ont opté pour Al-Qunina. C'est parce qu'elle leur semblait plus accessible que, et moins neutre que Al-Sujaj. Alors que, et elle est immédiatement compréhensible pour le lecteur arabe. Quant à Al-Sujaja, certains ont écrit, elle risque de se perdre avec les bouteilles normales. Nous en venons maintenant à la coalition islamo-conservatrice, le 15 avril, et le palais d'El Mouradia. Tous ces éléments étaient inconnus du public et donc ils font référence à des connaissances extra-linguistiques appartenant au domaine de la politique et plus précisément de la politique algérienne. Donc ils ont préféré expliciter ces trois termes dans la traduction arabe. Et le public égyptien, lui, ne connaissait rien puisque s'il ne s'intéresse pas à la politique algérienne, il ne peut pas savoir ce que c'est. Donc une recherche documentaire a été nécessaire. Et pour la coalition islamo-conservatrice, ils ont rajouté le mot Al-Ahzab. Donc ils ont parlé de Al-Ahzab, Al-Islamiyya, Al-Muhafiz. Sans aller dans l'explication qui consisterait à dire que cette coalition était composée du FLN et d'autres partis, n'est-ce pas, Jamaat al-Tahrir, Tajammu' al-Wadani al-Demokrati, Harakat al-Mujtama' al-Salam, ila. Donc, Tahaluf, ils ont parlé de Tahaluf al-Ahzab al-Islamiyya al-Muhammad. Pour le 15 avril également, si on ne s'intéresse pas à la politique algérienne, il faut donc faire une recherche et cette date qui était citée référée aux élections présidentielles en Algérie, qui était suffisamment médiatisée pour ceux qui s'intéressent à ce pays, mais qui ne l'était pas pour le public égyptien. Le palais d'Al-Mouradia, là aussi, grande inconnue. La recherche, il s'agit bien du palais présidentiel à El-Mouradia. Donc, dans la traduction, c'est devenu Qasr al-Ri'asa bil-Mouradia. Qu'est-ce qu'on peut dire si on veut parler de didactique de la traduction? Donc, pour les étudiants, ce qu'on veut dire, c'est que la traduction, ce n'est pas une question quantitative. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne un texte, aussi bref soit-il, vous avez lu ce texte, il est très bref, 122 mots, 10 lignes, et très riche. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est que nous devons traduire le même texte qui s'adresse au même public. Quel est le public de Al-Waqad? C'est un public de lettrés, c'est un journal qui se veut un journal de réflexion et de débat à l'attention des intellectuels algériens, donc il se rapproche un peu plus du monde, n'est-ce pas? Et la traduction, elle est adressée à ce lecteur du monde. Donc c'est ce qu'il faut traduire, c'est quelque chose qui soit qui a le même effet, qui produit le même effet sur le lecteur. La traduction donc de ce texte a mis en jeu la connaissance de la langue française, l'apport de connaissances générales, un raisonnement logique, la connaissance de la langue arabe et la prise en compte de la nature du texte. C'est le contenu du texte et non le texte en soi qui devient objet de la réflexion. Certains traducteurs, même en butant sur des problèmes lexicaux, n'ont jamais perdu de vue l'intelligence du texte pour en revenir au mot ou à la phrase comme unité de traduction. Ce texte a permis de voir que les différences sont présentes au sein d'une même culture comme elles le sont au sein d'une même langue. Là aussi, les traducteurs ont procédé à la même approche en termes de transfert culturel que s'il s'était agi d'une culture étrangère et se sont posé la question concernant le fonctionnement du texte dans son contexte de production et de réception. Pour comprendre l'autre, ils ont enrichi et adapté leur structure de connaissances à de nouvelles situations en effectuant des recherches documentaires qui ont permis d'incorporer des éléments divers, transformant ainsi la langue du traduit et confirmant que le sens d'un énoncé ne correspond jamais exactement à la somme de ses signifiés. Voilà. Merci. جيبيت وفي انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستتم في 15 من نيسان أبريل يربط البعض قصر الرئاسة بالمرادية بتلهف بينما يحاول آخرون أن يرووا ظمأهم بأبسط الطرق وبانتظام Yarou, Vama'ahoum, voilà. Et une autre traduction, puisqu'il y avait deux publics, Falbardo Yarou, Bitomohi, Istiasi, il a passé le Asa et Mouradia, Walbardo Akhar, la Hamma Lahou, Siwa Ishba, la Datihi, Bimuntah al-Basata, Wabisuratin Muntadila. est rentrée par concours et qui est en Master 2. Tout ce que je veux dire, c'est que pour peu qu'on ait de bonnes bases linguistiques et pour peu qu'on ait une bonne méthode, on peut arriver à presque le même résultat. L'essentiel, c'est d'avoir un